À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Dans la capitale, la situation s'améliore en termes d'emploi. Toutefois, à peine un demandeur d'emploi sur cinq est contrôlé. Le ministre Bernard Clerfailly entend réformer la procédure pour la rendre plus efficace. Au menu de ce brief également, près de 90% des communes belges appliquent une taxe sur les résidences non principales et c'est en région de Bruxelles-Capitale que les communes taxent le plus lourdement les multipropriétaires. Colruyt veut-il faire peau neuve en se recentrant sur son core business qu'est la distribution ? La réponse dans un instant avec son CEO, alors que le groupe annonçait hier la cession de ses magasins Dream Baby et la moitié de sa part dans le holding énergétique Viria Energy. Je suis Ondine Ouérès et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
La situation s'améliore à Bruxelles sur le front de l'emploi. Le taux d'emploi atteint les 2/3 de la population en âge de travailler. Il y a 2 ans, il n'était encore que de 62%. Il y a donc une très nette croissance, mais surtout pour la première fois, le taux d'emploi à Bruxelles dépasse la moyenne wallonne qui plafonne, elle, à 65%. Bon, pas encore de quoi se réjouir. La Flandre, elle, affiche un taux d'emploi qui frôle les 80%, c'est l'objectif du gouvernement fédéral, alors que dans le sud du pays, on n'y est pas encore. Mais il y a un mieux. Le chômage a diminué pour atteindre 10% dans la capitale, pour 8,2% en Wallonie et 3,3% en Flandre. Pour améliorer encore ces chiffres, la région bruxelloise va renforcer les mécanismes de contrôle des demandeurs d'emploi. Écoutez Bernard Clerfailly, le ministre régional de l'Emploi. Il est interrogé par Corentin Di Prima.
Donc une évaluation a été faite du ce qu'on appelle le contrôle disponibilité des chercheurs d'emploi à Bruxelles qui montre que la procédure est beaucoup plus longue et moins efficace à Bruxelles que dans les deux autres régions. Donc on va s'adapter à ce qui se fait dans les deux autres régions. On veut que la procédure aille plus vite, soit plus rapide. Elle a 3 étapes à Bruxelles, il n'y aura plus que 2 étapes, mais avec une faculté de recours, et atteindre ainsi un taux de contrôle qui devrait approcher les 100%, surtout pour activer, mobiliser les chercheurs d'emploi et leur permettre d'utiliser la palette de solutions que Actiris met à leur disposition en termes de formation, de reprise d'études, d'activation, de recherche active d'emploi.
Et ça passe aussi par une meilleure information des jeunes demandeurs d'emploi, mais pas nécessairement plus de sanctions.
Toute sanction est toujours un échec de la procédure d'accompagnement. Soit le chercheur d'emploi lui-même s'est montré négligent, ça arrive, soit les services d'accompagnement n'ont pas été assez accompagnants pour mettre en valeur toutes les offres de formation, de reprise d'études, de recherche active d'emploi, de coaching que l'on peut faire pour aider les chercheurs d'emploi pour tous les emplois disponibles en région bruxelloise.
La taxe sur les secondes résidences, il n'y a pas que les communes touristiques de la Côte ou de l'Ardenne qui l'appliquent. En fait, 9 communes sur 10 imposent les habitations qui ne sont pas une résidence principale et ces taxes communales touchent près de 870 000 contribuables en Belgique. Sur le podium des communes qui taxent le plus lourdement les résidences secondaires, on ne trouve que des entités bruxelloises. Dans l'ordre, il y a Berchem-Sainte-Agathe, Forêt et Jette, avec une taxe de plus de 2 500 € par an. Et à l'autre extrémité de l'échelle, il y a Jemeppe-sur-Sambre ou Walcourt à 125 € de taxe annuelle. Mais bien souvent, la taxe sur les secondes résidences est exonérée pour les biens mis en location et pour des logements étudiants notamment. Et si vous voulez connaître le montant exact de la taxe sur les secondes résidences dans la commune où vous avez peut-être un pied à terre, n'hésitez pas à consulter notre outil interactif sur l'application de l'Écho ou sur l'écho.be. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Le groupe Colruyt se recentre sur son core business, la distribution, ou plus précisément la distribution alimentaire. Ce mercredi, il a annoncé la vente de l'enseigne de puériculture Dream Baby. Les 27 magasins sont cédés à la chaîne belge Supra Bazar Et puis Colruyt a aussi décidé de vendre la moitié de sa part dans le holding énergétique Viria Energy. Il y a quelques semaines, Colruyt s'était offert 57 magasins Match et Smatch et 2 Intermarchés. C'est donc clairement une réponse aux critiques sur sa trop grande diversification dans des métiers qui n'apportaient que peu de synergie. Dream Baby a déjà subi une restructuration il y a près d'un an. Alors, quels seront les effets de cette vente pour les 256 salariés? Le CEO Stéphane Gotthard répond aux inquiétudes du personnel.
Nous avons fait connaissance avec les gens de Supra-Bazar déjà depuis quelques temps. Ils connaissent très bien le métier. Ça fait aussi 60 ans qu'ils travaillent dans le non-food, d'une manière très rentable aussi. Toutes les activités de Dream Baby vont continuer à exister, ce qui implique que tous les collaborateurs, la direction, mais aussi les magasins, etc., vont continuer comme ils ont toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas d'effet direct ni pour les clients aussi. Donc, je suis convaincu que pour les gens, pour les collaborateurs et pour les clients, les consommateurs de Dream Baby, que c'est une bonne chose.
Pas d'inquiétude sur l'emploi a priori donc, mais ce recentrage de Colruyt sur la grande distribution, est-ce que c'est un véritable tournant dans la stratégie du groupe?
Non, la stratégie de Colruyt Group n'a pas changé. Ce que nous faisons et ce que nous avons toujours fait, c'est de temps en temps revérifier toutes nos activités et voir qu'est-ce qui est nécessaire pour l'évolution de ces activités. Ce que nous avons fait pour Dream Baby et d'autre côté aussi pour notre participation dans Viria, mais ça n'implique pas que nous avons changé la stratégie du Colruyt Group. On va continuer à travailler sur nos 4 piliers. Ça veut dire que dans le foot, on a quand même encore récemment encore réinvesti. On va continuer à travailler sur la santé, sur le non-foot et l'énergie. Et si c'est vrai qu'il y a certaines activités qui sont un peu moins importantes à certains moments, ça peut changer à d'autres moments. Donc on va continuer à s'organiser sur ces 4 piliers.
Et puis notons que cette nouvelle stratégie a été plutôt bien accueillie par les marchés. L'action Colruyt gagnait plus de 3% hier alors que Bruxelles terminait nettement dans le rouge. « 250 tracteurs ont une nouvelle fois fait le siège du quartier européen hier à Bruxelles. C'est la troisième manifestation d'ampleur des agriculteurs européens lors d'un conseil des ministres de l'agriculture et de la pêche. Feux d'artifice et feux de Bengale, ballots de paille et fumier d'un côté, gendarmes, barrières et autopompes de l'autre, la matinée a été émaillée de quelques incidents lors de cette manif, un petit peu plus nerveuse que les précédentes. Si la commission a lâché du lest jusqu'ici, ce n'est pas encore de nature à rassurer les représentants du monde agricole. Écoutez ce représentant de Fugea.
Les revendications depuis le départ de la grande majorité des agriculteurs, c'est des prix agricoles qui sont beaucoup trop bas et donc plus de marge et impossible de continuer à travailler dans ces conditions-là. Alors, la réponse de l'Europe, ça a été un recul sur les réglementations environnementales. C'est pas ce qu'on demande. La réponse de la Commission est un très très mauvais signal. L'agriculture est en transition, elle doit continuer absolument comme le reste de la société, mais ça doit se faire dans des conditions économiques acceptables. Donc on demande qu'on en revienne à ces politiques qui ne sont plus basées sur l'ultralibéralisme, tout simplement.
Les ministres ont avalisé une série de mesures qui avaient été prises par la Commission pour soulager les agriculteurs, mais ils ont surtout sorti un nouveau lapin de leur chapeau. L'Union devra revoir son règlement anti-déforestation. Selon l'Autriche notamment, ce règlement freinerait le changement d'affectation des sols et empêcherait d'augmenter la part d'élevage bio qui demande de plus grandes superficies de pâturage. David Clarenval, qui est le président en exercice du Conseil Agriculture, estime que l'ensemble des mesures prises sont de nature à pouvoir apaiser les difficultés rencontrées par les agriculteurs.
Moi, j'ai quand même l'impression que on a ici un ensemble de mesures qui, additionnées, représentent quelque chose de conséquent et sont de nature à pouvoir apaiser les difficultés rencontrées par les agriculteurs. Sans doute qu'il faudra peut-être encore aller plus loin, mais ils vont se rendre compte tout doucement que les choses changent et vont dans le bon sens pour eux. Et il faudra aussi que ça soit implémenté concrètement pour qu'ils puissent l'appréhender dans leur réalité.
La transition se prépare à la tête de Belfius. Le mandat de Marc Rézière, le CEO de la Banque publique, n'expire que dans un an, mais sans attendre la formation du prochain gouvernement qui pourrait prendre un certain temps, la Banque propose la prolongation de son CEO pour un an supplémentaire. Même chose pour le président de son conseil d'administration, Chris Sunt. Le point pourrait figurer à l'agenda d'un Conseil des ministres restreint vendredi, sans être lié à d'autres nominations qui sont encore sur la table de l'exécutif. S'il y a accord du gouvernement, cette prolongation d'un an pourra être avalisée par l'Assemblée générale du 24 avril prochain. Ensuite, rien n'est encore écrit, mais il se dit à plusieurs sources qu'en 2026, Marc Rézière, qui sera alors âgé de 63 ans, pourra troquer son poste de CEO contre celui de président. En 10 ans sous la direction de Marc Rézière, la banque a dépassé la barre du milliard de bénéfices en 2023 et propose cette année à l'État le versement d'un dividende de 440 millions d'euros. En voilà un joli coup pour Donald Trump. L'entrée en bourse de son entreprise Trump Media & Technology Group fait vibrer le marché. TMTJ, c'est la société mère de son réseau social qu'il a créé après son éviction de Twitter et elle entre sur le Nasdaq grâce à une fusion avec une SPAC. Une SPAC, c'est une sorte de coquille vide, déjà cotée en bourse, qui permet donc de lever des fonds sans activité. Dès son premier jour sur le Nasdaq, l'action TMTJ s'envole de plus de 30%, avec des pertes de près de 50 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,4 millions de dollars seulement, mais une base de fans fidèles, l'entreprise défie un peu les lois de la gravité économique. Mais certains y voient le moyen de parier sur un retour de Trump à la Maison-Blanche. En attendant, pour Trump, c'est le jackpot. Ses parts dans TMTJ sont évaluées à près de 4 milliards de dollars et selon les derniers calculs de l'agence Bloomberg, la fortune de l'ancien président américain controversé s'élève désormais à 6,5 milliards de dollars, ce qui lui permet de rejoindre le club des 500 personnes les plus riches du monde. Sur les marchés, Wall Street conclut en petite baisse ce mardi. Les indices Dow Jones et S&P 500 ont tous les deux légèrement reculé. Du côté de l'Asie, la bourse de Tokyo repartait en légère hausse ce mercredi matin, soutenue par la faiblesse du yen, favorable aux exportateurs.
La Belgische ambassadeur van Family Business Award of Excellence 2024 is...
Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire du business en famille ? L'emballeur VPK a été sacré hier soir entreprise familiale de l'année. VPK, c'est 7500 employés dans 20 pays. Le groupe a dépassé pour la première fois la barre des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et c'est l'un des plus grands producteurs européens de papier recyclé, de carton ondulé et de tubes. Le fabricant d'emballage Dalost l'a emporté face à Siyun et à Ziegler. Il succède à d'autres entreprises familiales comme Dagospan, sacré l'an dernier, mais aussi Space, Cartamundi ou encore Duvel. Le jury pointe notamment les efforts du vainqueur en matière de développement durable, de bonne gouvernance et de croissance. La société s'appuie en effet sur une charte familiale puissante, jugée également mature et pertinente. Pierre Macaris, le CEO de VPK Packaging, est le représentant de la troisième génération des actionnaires familiaux et il ne cache évidemment pas sa joie.
Heureux de finalement aussi voir qu'il y a une reconnaissance en dehors d'un cercle familial des valeurs que nous recherchons à instaurer et à maintenir dans le groupe. Le centre décisionnel qui reste dans la région, qui crée plus de valeur, qui crée une stabilité à long terme, qui non seulement crée la stabilité financière, mais aussi de l'emploi. Et une société familiale est plus enclin à rechercher le capital lent et patient afin de laisser mûrir de très beaux projets qui ne trouveraient peut-être pas leur essor dans des sociétés un peu plus court-termistes.
C'est déjà la fin de ce brief. Un grand merci à Florent Schaus et à Laurent Fabry qui ont minutieusement préparé cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau brief. Salut!
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.